tous les budgets qu'il y a en ce moment sur les fonds de relance. Malheureusement, il n'y avait rien. Et je le regrette. Alors évidemment, voilà, on essaye de faire au mieux, certainement avec maladresse, je vous l'accorde. Mais voilà, l'esprit, c'est bien celui-là, c'est bien de pouvoir avancer pour pouvoir défendre au mieux les intérêts des Nantes-Gestiens et aller chercher les fonds nécessaires auprès des différents financiers.
Madame Galochet va faire quelques précisions, si vous voulez bien, sur l'aspect.
On prend tout à fait ce que l'objectif de la délibération. Voilà, je comprends aussi ce que veut dire Madame la Comte. En fait, je suis désolée, mais la délibération n'est pas bien rédigée. En fait, il faut que vous, dans vos considérants, il faut indiquer qu'il y a déjà eu un avant-projet sommaire qui a été établi par votre cabinet d'études, votre bureau d'études, parce qu'il y a eu une situation d'urgence qui a amené que. Et puis, la délibération, effectivement, elle a bien porté sur une première demande de subvention parce qu'il y avait une première phase. Je pense qu'il faut beaucoup plus, argumenter la délibération en ce sens. Et ensuite, non pas spécialement approuver le. On peut approuver un descriptif, ça c'est pas le problème, mais approuver un programme tel qu'il est, non. Mais par contre, pour prendre acte du diagnostic qu'a fait le bureau d'études, qui chiffre en projet, en prévision, qui chiffre ce programme à 3 531 000. Et vous, je pense que c'est la présentation de la délibération qui ne va pas, parce que là, on approuve un programme, on ne peut pas approuver un programme tel. Écoutez, que c'est pas de cette façon-là, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vraiment argumenter vos considérants et puis lancer effectivement. Et là, en lançant l'opération, eh bien, on peut effectivement demander des subventions et vous autoriser à demander des subventions. Là, c'est tout à fait normal, tout à fait logique. Mais approuver comme ça, brut de décoffrage, excusez-moi l'expression, mais approuver un programme en ce sens, non, parce que ce n'est pas au final ce programme-là qui sera retenu dans votre plan de financement, lorsque vous présenterez vos délibérations pour obtenir vraiment les subventions. Là, on lance juste un programme et on vous permet, dans ce cadre-là, de solliciter des financements.
Article 1 approuve le descriptif. Article 2 prend acte du diagnostic du bureau d'études avec le listing des trois montants et du préalable phase 1 et 2. Et article 3 autorise à solliciter, etc. Ça vous convient formuler de cette façon?
Et surtout, argumenter dans vos considérants parce que là, ils n'ont pas assez de matière. On ne fait pas état de l'avant-projet sommaire.
Abonder les considérants et les motivations de l'opération, c'est clair. Il faut aussi. On va proposer à tous les acteurs le document qui est annexé à la délibération. Le document là, avec l'estimation du coût. Donc il faut aussi viser l'ajouter.
Vos remarques, on motivera davantage les considérants. Donc avec ces modifications-là, qui s'oppose à la délibération ?
Je ne sais pas. Fédération, c'est la présidence d'Est des communes de Saint-Pierre et de Moulou, Montreux-Fautiol et Fontenay-Trézilly. On demande l'avis de la commune de Nangis. Suite aux diverses délibérations du SDES, le comité syndical du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, par lesquelles les adhésions des communes de Saint-Pierre-les-Nemours, donc Montreux-Fautiol et Fontenay-Trézilly ont été entérinées, il est demandé aux communes adhérentes au syndicat de se prononcer sur cette décision. La commune a un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du SDES, qui a eu lieu le 25 janvier 2021 pour se prononcer. Demande de délibérer sur l'adhésion de ces 3 communes au SDES.
Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Hamelin, encore pour la convention d'adhésion au dispositif de conseil en énergie à flash.
Toujours avec le SDES, l'objet c'est une convention d'adhésion au dispositif, le dispositif de conseil en énergie partagée, le CEP. Le SDES propose à ses communes adhérentes le service de conseil en énergie partagée, dont le principe est la mise à disposition d'une compétence énergie partagée afin de leur permettre de mener une politique énergétique maîtrisée sur leur patrimoine, en ce qui concerne donc les bâtiments, l'éclairage public et la flotte de véhicules. Le service de conseil en énergie partagée comprend, premièrement, une étude énergétique sur le patrimoine existant, bâtiments, flotte de véhicules, éclairage public, un accompagnement dans la mise en œuvre d'une politique énergétique maîtrisée et un accompagnement du changement des comportements. Pour cela, une participation financière demandée par le SDES s'élevant à 1 euro par habitant pour la durée de la convention, soit 3 ans. Commune comme Nangis, environ 8700 euros pour les 3 ans. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur cette affaire.
Merci, monsieur Hamelin. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous passons au point numéro 7 de la création d'une commission municipale d'admission en crèche. Madame Léon.
Certaines places seront d'emblée attribuées.
et d'autres mises sur liste d'attente pour pallier au désistement. En cours d'année, quelques places peuvent être attribuées lors hors commission si une place se libère. Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur cette création.
Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, qui s'oppose à cette création ? Ça vient, je vous remercie. Et donc, le point suivant, il s'agit de la désignation au sein de cette commission que nous venons de créer. La désignation des membres. Madame Lyon.
La désignation au sein de la commission municipale d'admission en crèche, suite à la création de la commission municipale d'admission en crèche, on vient de procéder à leur composition selon les dispositions législatives, à savoir au point le respect du principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Article L. 121-22 du Code général des collectivités territoriales. Concrètement, au regard de la représentation des listes au sein du conseil municipal, cela représente, entre parenthèses, sous réserve de dépôt de liste de chaque groupe, 4 sièges pour la liste Agir ensemble pour Nancy, 1 siège pour la liste Le Nouvel Élan Humain et Écologique, 1 siège pour la liste Demain Nancy. Le vote se fait à scrutin secret et de liste, sauf si à l'unanimité des membres du Conseil, il est décidé que le scrutin soit public. Il est ainsi proposé au Conseil municipal de procéder aux désignations pour la commission d'admission en place.
Merci Madame. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous désignions les membres comme nous avons pu le faire précédemment sans passer par le vote à bulletin secret ? Merci. Alors, pour la liste Agir ensemble pour Nangy, nous vous proposons donc Edith Lyon, Susanna Martinet, Serge Hamelin et Nimka Sigé. Madame Lagoutte, pour la liste Le Nouvel Élan Humain et Écologique, vous-même. Monsieur Durox, vous-même. Je vous propose donc les membres suivants pour la commission municipale d'admission en crèche. Donc Edith Lyon, Serge Hamelin, Nimka Sigé, Susanna Martinet, Clotilde Lagoutte et Émeric Durox. Qui s'oppose à cette composition ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit donc du règlement intérieur pour le service municipal de la jeunesse. Donc, cette délibération a pour objet d'approuver le règlement du service municipal de la jeunesse. Donc, suite au changement de l'équipe d'animation, le règlement doit être réactualisé pour l'année 2021 avec plusieurs modifications, notamment les horaires de fonctionnement de la structure, les conditions d'admission, les modalités d'accueil, le principe de l'adhésion, ce qui permet d'avoir des subventions auprès de la CAF, ce qui n'existait pas auparavant, les modalités d'organisation des séjours, l'engagement et l'exécution du règlement. Vous avez donc le règlement qui vous a été soumis. Vous constaterez qu'il y a et notamment une modification en commission, puisque le règlement a été étudié en commission. Il avait été proposé par les membres de la commission, l'ajout de la phrase « Les violences verbales et physiques sont proscrites ». Donc vous retrouverez bien la phrase en page 5. Voilà, donc le principe, il y a donc deux structures au sein du service municipal de la jeunesse, à savoir l'espace jeunesse et le SIJ. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ?
Oui. Est-ce que dans la délibération qui est visée est bien une délibération de 2014 ? Si tel le cadre doit peut-être son numéro et ça.
Vous avez raison, ça a été rayé. Autant pour moi, je n'ai pas retourné ma note. C'est ôté. Le, vu la délibération, etc., vous pouvez le rayer. Merci. Monsieur Billou.
Je suis un peu surpris de voir la délibération venir à cette séance, parce qu'il me semble, en commission, il nous avait semblé que le proposition de règlement méritait d'être encore un peu retravaillée. Elle l'a été, mais du coup, il y a des éléments de contenu qui sont très 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 différents de ce qu'on a pu évoquer, j'y reviendrai. Puis il y a toujours des questions de forme. Encore une fois, ce n'est pas le règlement du service. Le règlement de service municipal, c'est autre chose.
C'est le règlement de l'espace jeune et du CIJ.
Voilà, et on va retrouver encore des problèmes sémantiques. On explique que le service municipal de la jeunesse est une structure. Non, l'espace jeune, enfin, on parle de l'espace jeune, on parle de l'espace jeunesse. Bon, ça, c'est des détails, mais dans un règlement, ça fait un peu des ans. Non, le problème.
Je vous invite à relire le précédent règlement. Là, ce sont des détails sémantiques. Dans le précédent règlement, on était sur des problèmes juridiques, monsieur Billou, auparavant. Puisqu'on n'avait pas le droit de mélanger l'accueil des mineurs et l'accueil des majeurs. Et c'est ce qui était prévu dans le précédent règlement. Donc je vous avoue que des petits détails, bien sûr, c'est toujours perfectible. Mais des détails sémantiques me semblent beaucoup moins importants que des gros détails juridiques. Vous voyez ce que je veux dire ?
L'accueil des mineurs et des majeurs a toujours été rendu possible, y compris avec l'avis favorable de Jeunesse et Sport, puis de la DDCS. Peut-être des évolutions réglementaires pour pouvoir
être... C'est exactement le cas. Si vous les suiviez, vous seriez peut-être au courant. Effectivement, aujourd'hui, pour avoir les autorisations nécessaires auprès de la DDCS, il est imposé que l'accueil des mineurs et des majeurs ne soit séparé, soit distinct. Ça peut être sur la même structure, mais pas sur les mêmes créneaux horaires.
Oui.
Mais là, ça, c'est pas nouveau. Hein.
Oui, mais là, vous avez réglé la question, il n'y aura plus d'accueil des majeurs.
Non, ça c'est faux, ça c'est vous qui le dites.
Mais c'est dans le règlement.
Non, alors si vous... Posez-moi une question et je vous répondrai.
C'est dans le règlement. Dans le règlement, la seule possibilité d'accueil des majeurs se fera dans la structure information jeunesse. Donc un espace isolé dans lequel il y a un majeur. Si vous lisez ce qui est écrit dans le présent règlement, l'accueil à l'espace jeune est réservé donc aux mineurs. Aux mineurs.
Oui, aujourd'hui, monsieur Billou, avec ce règlement qu'il était urgent de voter. Mais nous travaillons, le service jeunesse, les agents, les élus, nous travaillons à l'organisation d'un fonctionnement distinct pour les jeunes majeurs. Qui pourront être accueillis sur la structure à des horaires différents. Mais notre priorité, c'est de se mettre au carré avec la réglementation des DCS. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir de soucis avec l'État et on n'a pas envie de perdre nos subventions.
Mais pourquoi ne pas le mettre dans le règlement ? C'est pas écrit.
Et juste, je vous dis, on y travaille, monsieur Billou. Vous savez, on est un peu long, on a du mal, on débute, tout ça. Donc, on commence.
C'est pas le règlement de demain. C'est pas,
mais c'est pas grave, monsieur Billou. Ce qui compte, c'est de démarrer. Donc là, la structure, elle existe. Elle accueille aujourd'hui les jeunes majeurs au SMJ. Elle accueille les mineurs, parce que ça nous semble être prioritaire, sur la structure. Et le travail se poursuit et l'organisation avec des horaires distincts. Je vous rappelle quand même qu'on est en Covid en ce moment. Donc souvent ce qui se passe, mais je vous l'explique, pardon. Souvent ce qui se passe pour l'accueil des jeunes majeurs, ce sont des accueils en soirée, entre 19h et 22h ou entre 20h et 23h, qui aujourd'hui, évidemment, avec le couvre-feu, ne serait pas possible. Donc ce qui nous a semblé le plus important, c'est de voter, de vous proposer, de vous soumettre ce soir le règlement intérieur tel qu'il a été travaillé par le service, en collaboration avec les élus évidemment, avec un nouveau service, hein, bien sûr. Le travail se poursuit pour vous proposer une nouvelle version dans un prochain conseil qui intégrera la possibilité d'accueil pour les jeunes majeurs sur des créneaux d'accueil distincts, puisque ce qui se pratiquait auparavant n'était pas autorisé.
Et je pense que nous prononcerons sur le prochain projet. Ce projet-là, nous ne le prenons pas.
service, hein, qui précisait « L'espace jeune est soumis à la législation relative à l'accueil des mineurs et pour autant les majeurs étaient accueillis. » Donc en fait, ce qui existait avant était illégal. Je vous le dis, c'est tout. Si, si, bah, vous l'expliquerez à la directrice du service, c'est elle qui m'a préparé la note. Hein.
Oui, mais je suis
voilà.
On a fonctionné en toutes les qualités.
C'est-à-dire que, en fait, ce qui était formidable dans l'ancien règlement intérieur, non mais puisque vous m'interrogez, je vous réponds. Donc dans l'ancien règlement intérieur, il était à la fois écrit « L'espace jeune est soumis à la législation relative à l'accueil des mineurs ». Vous avez bien entendu l'accueil des mineurs. Et un petit peu plus loin, il était écrit « L'espace jeune est un lieu destiné aux jeunes nangiciens et communes aux alentours de 13 à 25 ans ». Voilà. Donc, je vous propose donc de soumettre pour vote ce règlement intérieur perfectible et avec une équipe qui continue à travailler pour proposer tout un panel d'offres aux jeunes nangiciens de structures adaptées à leur âge et à la réglementation. Qui s'oppose à cette délibération? Qui contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne donc le centre aquatique et le plan d'organisation de la surveillance des secours. Monsieur Guinert.
Modification du plan d'organisation de la surveillance et des secours POS. Le plan d'organisation de la surveillance et des secours est un document obligatoire que doit réaliser l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant et le modifier, le mettre à jour à chaque changement d'organisation d'éléments contenus. Contenu dans celui-ci, arrêté du 16 juin 1998, modifié en 2008. Il a pour objectif 1. De prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement. 2. De préciser la procédure d'alarme à l'intérieur de l'établissement et des procédures d'alerte des services de secours extérieurs. 3. De préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident. Il comprend l'ensemble des éléments suivants. 1. Un descriptif accompagné d'apprendre l'ensemble des installations, 2. Les caractéristiques des bassins et des zones d'évacuation publique, 3. Identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public, 4. Identification des moyens de communication dont dispose l'établissement, 5. Un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, 6. Les modalités d'organisation de la surveillance. Compte tenu de l'obligation de l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant de produire un plan d'organisation de la surveillance et des secours arrêté du 16 juin 1998, compte tenu de la nécessité de réactualiser le plan d'organisation de la surveillance des secours dans les établissements de natation et d'activités aquatiques d'accès payant dès que l'organisation de l'établissement ou de la surveillance est modifiée, il est proposé la modification du plan d'organisation de la surveillance et des secours pour les raisons suivantes. Dans le but d'améliorer l'organisation de la surveillance et des secours, pour permettre une surveillance plus efficace en définissant le rôle de chacun pour répondre aux exigences de la réglementation concernant la surveillance, suite au départ de la collectivité de personnes citées dans le plan d'organisation de la surveillance et des secours, suite à la possibilité de mettre à disposition l'établissement des associations sans la présence d'un éducateur, puisque dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le plan d'organisation de la surveillance et des secours ainsi modifié.
Qui est pour, qui est contre?
Merci, monsieur Guinert. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose d'approuver cette modification de poste. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne le tableau des effectifs du personnel. Je laisse la parole à M. Lancel.
Merci, madame le maire. C'est le tableau des effectifs du personnel territorial pour l'année 2021. Le tableau des effectifs est actualisé en principe chaque année et recense les effectifs budgétaires d'une part et les effectifs réellement pourvus d'autre part. Pour information, la dernière actualisation remonte au 2 mars 2020. Il est utile de souligner que la carrière au sein de la fonction publique territoriale a subi des évolutions du parcours professionnel des carrières et des rémunérations, le PPCR, depuis le 1er janvier 2017. Ainsi, les grades fusionnés en 2021, cadres d'emploi d'éducateurs de jeunes enfants et des assistants sociaux éducatifs. Ce tableau tient donc compte parmi ces modifications réglementaires. Alors, à l'article 1, on fixe ainsi qu'il suit le tableau du personnel, filière administrative, effectif budgétaire 81 personnes, effectif pourvu 47, pourvu par agent contractuel 2. Concernant la filière technique, effectif budgétaire 107, effectif pourvu 71, dont pourvu à temps non complet 5, dont pourvu par agent contractuel 5. Filière sportive, effectif budgétaire 12, effectif pourvu 3. Filière culturelle, effectif budgétaire 10, effectif pourvu 3, dont pourvu à temps non complet 1. Concernant la filière police municipale, l'effectif budgétaire est à 8, l'effectif pourvu 3. Filière médico-sociale, effectif budgétaire 31, effectif pourvu 19, dont pourvu à temps non complet 2. Filière animation, effectif budgétaire 38, effectif pourvu 20. Ce qui nous donne un effectif budgétaire de 287 pour un effectif pourvu de 166, dont pourvu à temps non complet 8 et dont pourvu par agent contractuel 7. Concernant les non titulaires sur emploi permanent, l'effectif budgétaire pourvu est à 19, dont TNC 1. Contrat d'aide, effectif 4, effectif donc pourvu 0. Contrat d'apprentissage, aucun. Avez-vous des questions suite peut-être propos tenu par M. Billou tout à l'heure?
Elle est en dispo.
services, directeur des services techniques qui est absent, mais le recrutement a été fait et sera pourvu le 26 avril, pour grand soulagement des élus en charge du secteur, de tous les élus en premier lieu.
Et des agents.
On a une partie aussi d'agents. Vous avez d'autres questions?
L'idée, c'est que là, c'est un instantané et il y a des recrutements en cours.
Et aujourd'hui, l'effectif fonctionne. Tout à l'heure, j'entendais que les agents étaient en plainte. C'est pas ce que nous, on sent. On sent quand même des agents qui sont plutôt satisfaits, qui sont enfin écoutés. Vous l'avez dit, oui, monsieur, vous pouvez décliner, ça ne me dérange pas. Par exemple, vous savez juste le nettoyage du marché. Avant, il y avait une demande qui avait été faite, nous, on a répondu favorablement. C'est-à-dire que les agents n'ont plus à, pour quelques euros, à venir travailler le samedi. C'est quelque chose qui leur a facilité la tâche. On est en révision, vous savez qu'il y a quand même des évolutions réglementaires avec les 1607 heures. Nous aurions pu faire le choix d'arbitrer directement sans prendre une seule concertation, et pourtant on fait des groupes de travail assez importants pour tenir compte, nous, des agents. Donc on octroie souvent les horaires qu'ils attendent avec les RTT qui vont bien. On les met dans des locaux aussi où, ça, où ils semblent un petit peu plus favorablement accueillis. Et la police municipale, si tout se passe bien, ils devraient être installés courant second semestre. C'était votre projet? Que de projets que vous n'avez pas mis en œuvre. Tant mieux, heureusement que vous étiez là, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que je peux vous dire? Par exemple aussi, les finances. On prend soin de nos agents. S'il y avait un incendie demain, la question c'est comment est-ce qu'ils feraient pour partir, les finances? Je parle sous le contrôle de Mme Galochet. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul escalier, ils sont au deuxième étage d'une tour. Sauf à sauter, à se casser les jambes, dans le meilleur des cas, je ne vois pas trop comment ils pourraient évacuer. Mais pourtant, c'est quelque chose que nous, on va essayer de mettre en œuvre très vite pour respecter la sécurité. D'ailleurs, la sécurité, ce n'était pas vraiment du Londres, puisqu'aujourd'hui, on reçoit des dossiers où il n'y a rien. On ne sait pas. On ne sait pas où sont les évacuations, les contrôles. Je ne rappelle jamais du nom, je pense, le contrôle de mission. Il y a un organisme qui passe tous les 12 ans. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Et malheureusement, ils ont fait des rapports et ça n'a jamais été suivi. Donc tout ça, on vous le fournira. Vous inquiétez pas, c'est comme l'audit.
Le bâtiment qui a sauté
en 2012. D'accord, bah, écoutez, moi je peux bien, mais on pourra le revoir si vous voulez. C'est comme le dit tout à l'heure, vous parliez.
Est-ce que tu aurais l'avis défavorable sur les limites de la
solution NAS? C'est bien. C'est comme pour l'audit informatique. L'audit, c'est vous qui l'aviez commandé. C'est pas pour rien, à mon avis. Voilà.
Juste là-dessus, pour compléter, début août, j'avais rencontré le lieutenant de pompier qui m'alertait également sur les avis défavorables de certains bâtiments municipaux. Monsieur Billou, avant les visites de sécurité qui étaient prévues en septembre. Sur le stade notamment. Vous pouvez toujours dire non de la tête. Moi, je vous dis que c'était l'alerte du lieutenant Roby. Pour l'église, on n'en parle pas. Il y avait un avis de péril depuis 2017.
Montrez-moi les avis défavorables.
Vous voulez les avis défavorables?
C'est suivi d'action.
Dans le cadre d'un nouvel élan, on pourra les mettre sur Facebook. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le personnel?
Peut-être rajouter que pour dans le cadre du programme Petite Ville de demain, il y a également un recrutement qui est prévu et qui ne figure pas au tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'oppose? Délibération. Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, parmi les questions diverses, pour les questions diverses, je vais laisser la parole à Monsieur Luc. Pour la note d'information, relative à la coordination entre la PM et les forces de sécurité.
Voilà, c'est la coordination entre les... la police municipale et les forces de sécurité de l'État. Au terme de l'article L512-4 du Code de la sécurité intérieure, dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins 3 emplois d'agents municipaux, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'État dans le département après avis du procureur de la République. Territorialement compétent. La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État précise la nature et les lieux des interventions des agents de la police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions se coordonnent avec celles de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Nangis. Pour la commune de Nangis, la dernière convention de coordination de la police municipale a été signé avec l'État le 13 mars 2018. La date d'échéance arrivant à son terme, il est nécessaire d'actualiser et de renouveler cette convention qui a été signée et qui est partie à la signature du procureur de la République et du président. Merci.
Merci Monsieur Duc. Nous allons donc passer aux questions. Je vous propose de commencer par les questions que Monsieur Durox avait posées pour le précédent conseil municipal. Vous voulez les reprendre, Monsieur Durox ? Pardon ?
Non, ça ira, c'est le premier coup de
vent. Vous voulez que j'y réponde quand même ? Quand même les relire, donc que ce soit vous ou que ce soit moi, il faut quand même les relire, sinon personne ne va rien comprendre. D'accord. Alors, première question, Covid-19, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, les collectivités territoriales agissent en coordination avec les services de l'État pour lutter du mieux possible contre la propagation de ce virus. Je voulais attirer votre attention au sujet des analyses des eaux usées acheminées par le réseau d'assainissement et traitées par les stations d'épuration. L'analyse des charges virales qu'elles contiennent est un indicateur précis qui permet de cartographier de façon assez fine la circulation du virus sur un territoire donné. À ce titre, j'aimerais connaître l'analyse faite sur les eaux usées traitées par le réseau d'assainissement et la station d'épuration de Nangis. L'exploitation de ces résultats permettrait de mieux anticiper l'évolution de la situation sanitaire et des mesures adéquates qui en découlent. Et vous aviez ensuite mis deux liens vers des articles de France 3 et de La Dépêche sur le sujet. Alors, pour l'information de tous, sur la Covid, le maire ne peut pas prendre d'arrêté spécifique. Quand bien même la charge virale serait notée comme extrêmement importante, il n'y a que le préfet qui peut prendre des mesures relatives à la Covid. Ça, c'est le premier point, c'est vraiment le préfet qui a la main et non pas l'autorité territoriale fédérale. Tous les tests positifs sont évidemment remontés à l'ARS, qui suit l'évolution des différentes communes, des différents territoires. Et jusqu'à présent, Nangis suit l'évolution de la Seine-et-Marne sans s'en démarquer d'une façon ou d'une autre. Vous avez des informations, alors allez-y, je vous en prie, Monsieur Bruno.
Par rapport à votre question, donc en fait, depuis mi-octobre, nous avons participé à un réseau qui s'appelle le réseau Bépine, suivi par Veolia. Aujourd'hui, en fait, il y a des stations qui sont mères. Stations filles, qui font partie des stations filles, des stations petites, qui n'ont pas encore été suivies. Voilà, donc il y a des choses. Enfin, en fait, on fait partie d'un réseau, on n'a pas d'informations aujourd'hui, mais enfin, on n'a pas d'analyse du fait de chez nous, retour d'informations, mais pas précisément de notre station. Voilà.
Alors, on pourrait le faire, des abonnements qui sont payants. J'ai certaines communes qui l'ont fait.
C'est gratuit. Hein,
ça dépend. Non.
Pour nous, ce réseau-là, nous arrivons.
Oui, mais voilà, c'est gratuit, mais on n'a pas les résultats. C'est-à-dire pourrait avoir des formules payantes pour lesquelles on obtiendrait des résultats. On a fait le choix de se concentrer sur la vaccination. de toute façon, c'est ça qui. Donc, de concentrer les énergies des agents et des élus sur la vaccination, sachant de toute façon le peu de pouvoir de l'autorité locale. Votre deuxième question concernait la raffinerie de Grandpuy. Quelle est la position de la mairie face à un plan social annoncé par Total? Et dans quelle mesure cela peut-il affecter notre emploi direct et indirect, notamment? Donc le plan de restructuration de Total, ce sont 600 millions d'euros d'investissement. La création, il ne faut pas l'oublier aussi, la création de 1000 emplois sur 3 ans. Alors évidemment, ce sont aussi 150 emplois perdus pour Total, mais sur les sites de Nangy et de Gargenville, et une centaine d'emplois de sous-traitants, de disparition d'emplois de sous-traitants qui sont annoncés. Alors évidemment, on sait toute la difficulté que cela représente pour les personnels Total, pour les personnels sous-traitants, pour se projeter dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle. On est bien conscient de tout ça. Malgré tout, je pense que c'est aussi une opportunité d'orienter le territoire vers des énergies d'avenir. Et nous préférons accompagner ce changement le mieux possible pour que ce site devienne un site novateur, un site porteur d'emplois, un site porteur de projets industriels nouveaux, tourné vers le futur, plutôt que de subir simplement une destruction. Total aurait pu simplement fermer le site. Ça n'est pas le cas. Et donc, ça, on ne peut que s'en réjouir. Total aurait pu faire le choix de s'implanter à l'étranger, que les emplois partent ailleurs. Voilà. Ici, les emplois restent en France, les emplois restent sur notre territoire, et il y a un potentiel. On sait très bien que le site proche de Paris, avec une voie ferrée, pour les industriels, c'est un site intéressant. On est en lien fréquent avec le directeur du site. Il y a un autre site, c'est l'usine de la Med qui se situe dans le sud de la France, qui est un projet un petit peu similaire à ce qui s'est mené à Total. Je crois qu'il a 3 ans, comme ça, si je me trompe. Et aujourd'hui, le site est bénéficiaire en emploi, parce que d'autres projets industriels sont venus se greffer. Donc voilà, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que ce site se développe et soit un porteur d'espérance pour l'avenir des Nangiciens et avec un solde évidemment positif d'emploi. Voilà. Et pour l'information des uns et des autres, une concertation va être menée sur l'avenir du site à destination du grand public et des administrés par le groupe Total. Donc on en saura plus à la fin du mois, mais il y aura une phase de concertation. Voilà. Et vous n'avez donc pas posé, M. Duroc, de questions pour ce conseil municipal. Voilà. Madame Lagoutte, je vous laisse poser les questions de votre groupe.
Oui, Madame le maire, nous avons été alertés par un post Facebook, je vous en fais lecture. C'est une triste nouvelle pour notre environnement local. La ville de Nangy ne sera pas partenaire cette année du Lions Club de Provins Nangy-Bray-sur-Seine pour le défi pour l'environnement organisé ce 20 mars au prochain. Cette action qui est devenue nationale s'inscrit comme un acte citoyen en faisant participer petits et grands dans l'entretien de notre espace commun, le domaine public. Nous regrettons qu'après 4 années de partenariat actif et constructif, notre ville, ma ville, jette l'éponge avant même que les nouvelles mesures sanitaires nous soient annoncées et définissent les règles de rassemblement le week-end. Notre club s'était pourtant engagé à mettre à disposition notre compétence et savoir-faire. Les années précédentes sur le département, c'était 4000 volontaires, 84 points de rassemblement en Seine-et-Marne et 16 hors de notre territoire et 610 mètres cubes de déchets collectés et évacués. Fin de citation. Donc ma question est la suivante, alors que d'autres communes ont maintenu leur engagement en adaptant cette initiative à la crise sanitaire, alors que cette initiative reçoit le concours, le soutien du conseil départemental de Seine-et-Marne, pourquoi y avez-vous renoncé? Jugez-vous notre ville trop propre?
ce que dit Christa. Je suis un peu surpris de voir que l'on met l'Union Club dans le plan politique, sachant que c'est une organisation apolitique et en principe non religieuse aussi. Donc,
c'est une question municipale.
C'est une question, moi je la prends, c'est pour ça que je vous le dis. Par contre, il aurait été intéressant que l'administratrice interroge la présidente, lui-même en tant qu'ancien président, puisque c'est le président du Lions Club, hein, bien sûr, puisque c'est de ça dont on parle, puisque c'est elle-même qui a décidé de soustraire les personnes, les bénévoles de cette action. Nous, on a étudié la situation, hein, puisque Serge Armin est en phase avec, on a fait plusieurs réunions avec le Lions Club, sauf que face au confinement probable, non probable, nous avons fait le choix de ne pas mettre la population aussi en risque. On rappelle que le taux d'incidence aujourd'hui est aux alentours de 1000 sur le secteur, alors qu'au-dessus de 220, on est en risque. On est en groupe de 6 personnes maximum, puisque c'est un peu la cible pour éviter, pour être dans les normes de la préfecture. Jeter l'éponge, je suis un peu surpris encore une fois de jeter l'éponge, parce que la personne qui a écrit ce texte, c'est quand même lui qui a été initiateur de ce projet il y a plusieurs années. Et pourtant, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu l'an passé. Quant à cette année, effectivement, il aurait pu vouloir participer. Mais encore une fois, le Lions Club, on n'a pas vu les moyens mis en œuvre. On nous dit qu'il y aurait eu effectivement des personnes, mais pourquoi c'est le Lions Club de Provins, Bray-sur-Seine, pourquoi Bray-sur-Seine ne l'a pas fait? Pourquoi Provins ne l'a pas fait? Pour ça, parce que moi, je n'ai pas la réponse. Donc, nous, on a fait le choix de ne pas mêler les administrés à un risque. On sera présent. On sera présent sur les actions de nettoyage quand il y aura d'autres actions. Mais à cette époque, ça ne nous a pas semblé très pertinent. Maintenant, si personne, l'administré veut faire des actions, et il est proactif pour ça, hein, avec Mme Jacqui, ils sont en relation pour aussi, puisqu'il est président du club porchiste de l'Abri. Une action sera prévue au mois de juin, c'est ça, Mme Jacqui? On pourra mettre en œuvre peut-être des partenariats de nettoyage. Bon, on parlera pas le véhicule catégorie 3, parce que c'est plutôt polluant. Mais voilà, c'est ce que nous pourrions dire aujourd'hui. Je dis aussi, est-ce qu'on juge notre ville trop propre? Je ne singerai pas dans un système de municipalité qui disait que la ville n'est pas sale, ce sont les magiciens qui la salissent. Effectivement, moi je pense aussi que nous pensons que les magiciens salissent, mais qu'on a des services aujourd'hui qui font le maximum avec les moyens qui sont les leurs. On a remis en route une balayeuse qui était soi-disant en panne, et pourtant elle fonctionne. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, vous savez, on a un constat, on fait avec les moyens qui sont les nôtres. On a beaucoup de matériel vieillissant, on a des agents qui sont d'une très grande volonté et on ne peut que saluer le travail qu'elle donne. Ça ne pourrait presque se dire aussi qu'aller nettoyer en complément, ça pourrait vouloir leur dire qu'ils ne font pas suffisamment bien leur travail. Le vrai sujet, c'est plutôt de savoir comment on fait pour améliorer la ville, mais comment on la rend agréable aussi. Ça passe par le nettoyage. Et croyez bien que Serge Lamelin un acteur fort pour ça.
Monsieur Lancel, excusez-moi, je vous dis...
Le micro, madame la ministre.
Excusez-moi, je rebondis parce que vous vous êtes un petit peu écarté de la question, mais c'est vrai que cette action, elle avait aussi une action éducative. Donc, en effet, on est dans une crise sanitaire importante, mais on avait la chance que cette action se passe à l'extérieur et on pouvait tout à fait prévoir des petits groupes par famille ou par 6 maximum, je pense quand même qu'il y avait des possibilités de la mener pour toujours avoir ce, comme vous dites encore, elle est aussi salie la ville et c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand chose en ce moment en intérieur et je pense que justement, je sais que le Lions Club le propose dans d'autres villes et dans d'autres secteurs et on aurait pu quand même, je pense, l'imaginer un peu autrement, bien entendu, mais je pense qu'on aurait pu.
Alors le faire, oui, on peut toujours tout faire. Le problème, encore une fois, c'est que les moyens mis en œuvre pour le faire, et vous ne savez mieux que personne, puisque vous savez qui a été mené sur le sujet, c'est plusieurs mois de travail, c'est 3 mois minimum. On a démarré le sujet, sauf que vous savez très bien que le confinement ou le déconfinement, on ne le pilote pas. L'incertitude, c'est mettre les services. Les services, il faut préparer les choses. Enfin, c'est pas un claquement de doigts, ce genre d'action. Donc, ça se prépare, nous sommes prêts, mais dans un souci de préserver, encore une fois, les administrés, on n'est que 6. Il était prévu qu'on puisse être un membre du Lions Club par groupe, donc 5 plus 1. mais je ne pouvais pas garantir avec les moyens qui nous étaient donnés que l'action se passerait en toute sécurité pour les administrés. Et c'est un choix qui a été fait dans ce sens-là, comme l'a fait Provins, comme l'a fait Bry-sur-Seine.
Je voudrais simplement compléter en apportant l'information suivante. Le collège de Nanchy mène une action avec Mme Abbé notamment. Et la ville est partenaire de l'action qui va être menée par Mme Abbé. Voilà. Mardi, c'est ça, M. Hamelin, je crois. Mardi. Voilà. En partenariat avec le collège.
Vous
n'êtes
pas sans savoir non plus.
Le micro, c'est un.
Vous n'êtes pas sans savoir non plus que parmi les déchets qu'on retrouve malheureusement en ville, il y a beaucoup de masques qui présentent un fort risque pour le Covid. Et on ne peut pas mettre, faire peser ce risque sur les administrés. Il peut y avoir des enfants qui ramassent ces masques. Le risque est trop important. On a jugé le risque trop important ce genre d'accident.
On a apprécié le rapport bénéfice.
Nous avions déjà contacté, on était en contact avec l'Alliance depuis janvier déjà. On a réfléchi longtemps pour savoir si on allait maintenir ou pas cette action. Et le confinement, on ne savait pas si nous voulons être confinés ou pas à un moment donné. Et après, il était trop tard de toute façon pour organiser quelque chose. Pour maintenant la sécurité des logiciels.
Et pour compléter juste rapidement. Prochaine action, c'est, je suis d'accord avec moi, si dans l'hypothèse de la Covid, un arrêt de la Covid pour une action future, on est prêt à travailler.
Tout à fait d'accord, bien sûr.
Question suivante, je vous en prie.
Merci également à M. Jean-Luc Thierry, qui mène ce combat difficile avec nous pour que nos seniors soient vaccinés. Hashtag tous vaccinés, tous protégés. Ma question est donc la suivante. Pourquoi la ville de Nanchy n'a-t-elle pas bénéficié de cette initiative?
Merci M. Chikaya. Alors, je vais vous faire un aveu, je suis assez étonnée puisque vous suivez les réseaux sociaux, vous n'y avez pas retiré votre question. Puisque forcément, vous avez pu le constater. Pardon ?
C'était pour vous donner la possibilité de
venir. Oh, c'est gentil, je vous remercie. Je vais le faire avec grand plaisir. Donc effectivement, les équipes mobiles du département étaient à Mormant, comme vous avez pu le constater la semaine dernière. Et elles étaient donc à la RPA de Nanchy mardi. Donc les résidents qu'ils souhaitaient ont pu être vaccinés, ainsi que les personnels municipaux qui sont directement en contact, donc les trois agents du CCAS qui travaillent à la RPA, et avec les doses complémentaires, les agents du CCAS avec nos élus ont pu solliciter les Nanchyciens à partir des listes des personnes vulnérables, en ciblant précisément notamment sur ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Et donc l'intégralité des doses, évidemment, a pu être utilisée. Et ce sont donc plus de 50 Nanchyciens qui ont pu être vaccinés mardi. Et en parallèle, nous menons depuis hier une opération auprès
travail des Nangiciens de plus de 75 ans, puisque ce sont à peu près une centaine de places de vaccination qui ont été obtenues par Nangy sur le centre de Provins. Donc voilà, les fichiers ont été transmis avec les coordonnées des Nangiciens qui répondaient aux critères, c'est-à-dire d'abord ils étaient volontaires pour se faire vacciner, ils avaient plus de 75 ans, ils n'avaient pas eu la Covid dans les 3 mois, et donc ils seront vaccinés la semaine prochaine également. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, le nécessaire sera fait. Voilà.
Oui, merci pour votre réponse, parce que c'est vrai que les posts Facebook ont été postés après notre envoi de questions. Et
je vais vous expliquer pourquoi. Vu le faible nombre de doses, quand on a une cinquantaine de doses, nous ne voulions pas communiquer en amont pour perturber le travail du CCAS. Il nous a semblé plus pertinent de laisser les services mener les démarches auprès des Nangiciens et de communiquer après plutôt que de le faire avant, alors que voilà, les doses sont précieuses et donc nous n'avons pas voulu perturber le travail de phonique des agents. Et pour l'information des uns et des autres, il faut quand même savoir que ça n'a pas forcément été facile et qu'il y a beaucoup de Nangiciens qui ne souhaitent pas forcément être vaccinés, préfèrent être vaccinés par leur médecin traitant, etc. C'est assez paradoxal. Mais il a fallu quand même du temps pour constituer les fichiers de volontaires.
J'ai eu l'information là qu'il y a des médecins traitants qui commencent à recevoir certains médecins.
Et alors certains médecins ne souhaitent pas vacciner. Encore tout à l'heure, j'avais un Nangicien au téléphone qui me disait bah non, mon médecin m'a dit, vaut mieux pas vous faire vacciner. Bon, voilà, le message n'est pas forcément toujours très cohérent. Voilà. En tout cas, tous ceux qui le souhaitent, puisqu'il y avait des Nangiciens qui s'étaient déjà manifestés depuis longtemps, donc évidemment, ils ont été rappelés. Voilà. Et notamment, d'anciens collègues, et qui étaient déjà vaccinés. Monsieur Kerbache.
Bonjour à tous. Les médecins vaccinent. Hein. La semaine dernière, moi, j'étais vacciné.
Vous n'avez pourtant pas plus de 75 ans, hein, monsieur Kerbache.
Je suis diabétique. Risque, voilà. 55 ans. Madame le maire, les conseils municipaux et communautaires se déroulent en soirée. Or, ça fait 2 fois que la réunion de la commission jeunesse, sport et culture se tient en journée. Une réunion de la commission cadre de vie s'est aussi déroulée en journée. Nous n'avons pas pu siéger à ces réunions car certains sont en activité professionnelle. En effet, n'étant pas indemnisés, nous ne pouvons pas nous absenter dans notre travail en journée sans perdre de salaire. Pourriez-vous prévoir de démarrer les réunions de commission en fin de journée vers 18h afin de permettre aux édiles qui travaillent de pouvoir y participer?
Alors, vous avez déjà entendu ça? C'était les demandes de l'année dernière? Par le passé?
Oui, je disais donc que c'est un sujet redondant. Il nous a été reproché à certains élus de l'opposition de ne pas participer assez aux commissions donc, qui avaient lieu en journée pour favoriser, pour ne pas faire des heures supplémentaires aux agents parce qu'ils travaillent en journée, donc c'est mieux de faire des commissions avec les agents en journée de façon à ne pas les faire travailler le soir. Donc là, du coup, aujourd'hui, on se retrouve des membres de l'équipe de l'opposition qui étaient dans la majorité précédemment et qui demandent la même chose finalement, alors que c'était un reproche sur l'exercice.
Alors la différence, Madame Chute.
La culture avec le soir, hein, il y a des commissions d'appel d'offres effectivement en journée pour des
essentiellement en journée.
Donc, à la différence de la majorité précédente, si ces commissions-là, pour des soucis d'agenda, n'ont pas pu se tenir ailleurs qu'en journée, nous serons
dans le futur beaucoup plus vigilant. Effectivement, les problématiques sont les mêmes. Hein. Les agents ont fini leur journée de travail à 18h. Mais néanmoins, ils ont aussi leur vie de famille et on leur demandera de s'organiser. On fera tout ce qui est possible sur les prochaines commissions pour que les commissions puissent se tenir à partir de 18h.
Je me suis renseigné avant de poser mes questions.
Et la commission finance, c'était le soir.
Maintenant, voilà, je me suis renseigné avant de demander si l'ancienne municipalité faisait les commissions. Il n'y a que celle de la cadre de
Oui,
Le code de la commission de délégation du marché forain, je voulais le mercredi après-midi.
Après le marché, pour que les commerçants soient présents.
Ma connaissance, la commission d'appel d'offres et peut-être la commission d'attribution des places en crèche, parce que avant que vous remplaciez les démissionnaires, il y avait un accord des membres qui s'est fait rejoindre.
Tout à fait. Elle a un énorme
demande. Pour que je sois parfaitement transparent.
Après, il y a eu des reproches assez faciles.
Oui, dans vos absences à votre commission.
Question suivante. Puis du couvre-feu, il est impossible pour le public d'assister aux séances du conseil municipal depuis plusieurs mois. À cela s'ajoute la publication tardive du procès-verbal de la séance, la plus tardive possible puisque du coup il faut l'avoir validé, etc. Or, à chaque séance du conseil municipal, vous en demandez la tenue à huis clos sans débat possible. Nous vous avons alerté plusieurs fois sur le sujet. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus l'accepter. En effet, il nous semble important et essentiel de permettre au public d'assister à nos débats. Si ce n'est pas possible en présentiel, il faut que nos séances soient retransmises en direct, en vidéo. Après quasiment une année de confinement puis de couvre-feu, maintenir le huis clos devient une atteinte au fonctionnement démocratique de notre Assemblée. Certaines préfectures, d'ailleurs, insistent sur le fait que le caractère public de la réunion du Conseil est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public. Alors rendons nos réunions visibles et en direct sur Internet. Madame le maire, que pouvez-vous faire? Je pense que nous avons personnellement, j'espère, les moyens de le faire, parce que nous avons un service informatique qui m'a l'air d'être très fort.
Alors,
Madame Lagoutte, vous compléterez, monsieur Ancel. Je voudrais d'abord vous dire, comme vous, je regrette que le public ne puisse assister à nos séances. C'est la première chose que je tenais à vous dire. Ensuite, vous nous dites la publication la plus tardive du procès-verbal de la séance. Mais on ne peut pas publier un procès-verbal s'il n'a pas été approuvé. Puisqu'il est approuvé à la séance suivante, il ne peut pas, on n'a pas le droit de le mettre tant qu'il n'a pas été voté. Donc ça, ce n'est pas moi qui le décide. Non, ce sont les textes. Ensuite, vous dites, je demande la tenue à huis clos sans débat possible. Encore une fois, ça n'est pas moi qui refuse le débat. C'est le code général, oui, le petit livre rouge, là, qui précise que pour le débat à huis clos, tenue de la séance à huis clos, il n'y a pas de débat. Donc nous ne faisons qu'appliquer les textes. Ensuite, on est parfaitement dans le cadre des cadres. Vous avez entendu tout à l'heure, lors du débat d'orientation budgétaire, il n'y a pas eu d'investissement sur les volets informatiques et sur les réseaux qui permettraient d'avoir une retransmission de qualité sur Facebook. Il est difficile, je sais que vous avez poussé des cris d'orfraie, mais il est difficile en 8 mois de réparer 20 ans de défaut d'investissement. Mais oui. On voulait expliquer les flux informatiques, rien que ça, c'est déjà compliqué. Alors, mais imaginez. Et heureusement, vous étiez comme nous au précédent conseil communautaire. Monsieur Guyot, président du conseil communautaire, a précisé qu'il y a du matériel qui allait être acheté par la communauté de communes, et qui serait mutualisé et mis à disposition des communes pour qu'elles l'utilisent également, puisque pour l'information de tous. Les conseils communautaires se tiennent également sans public. D'ailleurs, ils n'ont retransmis. Je n'ai d'ailleurs pas de souvenir que vous soyez intervenu au conseil communautaire pour expliquer que c'était, comment vous dites, une atteinte au fonctionnement démocratique. Je serais curieuse de vous entendre faire la même remarque à M. Bouillot au prochain conseil communautaire. Et j'ajoute, attendez, s'il vous plaît, j'ajoute que les bandes sont de ce conseil sont disponibles sous 24, 48 heures, un peu plus 48 heures, elles sont disponibles sur le site internet de la ville.
Mais vous savez comme voilà. Moi que ce n'est pas la même chose de mettre en audio et d'avoir l'image et de pouvoir suivre en direct les questions.
Rassurez-vous, dans le prochain budget, l'investissement informatique il est multiplié par 10. Donc on pourra faire une investissement.
Et moi, dans le conseil communautaire, je me permets de vous dire que nous avions posé la question. Et c'est vrai que le président nous a demandé. Et on a parlé, il a parlé de l'investissement. On a pas, mais je vous invite
ça m'aurait fait plaisir de vous entendre.
Non, mais je vous invite à le presser dans cette chambre. Voilà,
dans ce moment. Si M. Guillaume ne nous avait pas commencé,
oui, bien sûr.
Vous avez retiré la question là. Non, mais atteinte au fonctionnement démocratique.
C'est pas tout d'un coup.
Eh bien écoutez, l'ordre du jour est maintenant épuisé. Comme nous, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.
Thank you.